8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, aujourd'hui, comment améliorer les villes grâce à l'économie sociale et solidaire ? Notre émission est enregistrée à Dakar, au Forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui se déroule cette semaine pour la première fois sur le continent africain. Près de 4,4 milliards de personnes vivent en ville à travers le monde, selon la Banque mondiale, et ce nombre devrait doubler d'ici 2050. Une explosion urbaine qui impose aux villes de nombreux défis, développement des transports, accès à l'eau, à l'assainissement, production de logements, création d'emplois, production de nourriture aussi aux portes des villes, dans un contexte de réchauffement climatique. Alors comment permettre à des modèles d'économie alternative de se développer pour des villes plus vivables ? Que peut apporter aussi l'Afrique dans le débat sur l'économie sociale et solidaire ? Nous allons en discuter à travers plusieurs exemples de projets avec nos invités. Imène Ouardani, bonjour à vous.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous, d'avoir fait ce long chemin puisque vous arrivez de Tunisie. Vous êtes experte en économie sociale et solidaire. Vous êtes ancienne vice-maire de la ville de Sousse en Tunisie, qui est une ville portuaire au centre de la Tunisie. Vous allez notamment nous parler de la pêche ou encore de la gestion des espaces verts dans votre ville. Et pour rappel, le président Saïed a dissous les conseils municipaux du pays en avril dernier. C'est pour ça que j'ai bien dit ex-vice-maire. Aminata Samdiop, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale du Fonds de développement et de solidarité municipale de Dakar.
Tout à fait.
Le FODEM, que connaissent bien nos auditeurs. Oui. Dakar, c'est la première ville africaine à accueillir le Forum de l'économie sociale et solidaire. Également avec nous, Monique Ayin-Kamnia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Dzeng, au Cameroun, à 50 km de Yaoundé. Et vous êtes aussi la présidente du réseau des maires du Cameroun pour l'économie sociale et solidaire. Dans un pays qui est, rappelons-le, maintenant majoritairement urbanisé. Je crois que c'est un des pays du continent le plus urbanisé, d'ailleurs.
Tout à fait, oui.
Également avec nous, Justin Bekounim. Bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes fondateur et directeur de Vega Recycling. C'est une entreprise sociale de production de granulés à partir de déchets plastiques à Lomé, au Togo.
8 milliards de voisins.
La planète se parle.
8 milliards de voisines et de voisins.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
On est ensemble pour parler de vos problèmes quotidiens, du nord au sud, les 8 milliards de voisins. Aujourd'hui, on parle de l'économie sociale et solidaire. Peut-être déjà, comment peut-on définir l'économie sociale et solidaire, Imène Ouardani ?
Merci Emmanuel. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et je salue tous les voisins et toutes les voisines de l'émission qui nous écoutent actuellement. En fait, l'économie sociale et solidaire, avant de la définir, c'est tout d'abord un état d'esprit. Et c'est un levier de développement local par excellence, surtout en Afrique. C'est quoi l'économie sociale et solidaire ? C'est un modèle économique, c'est l'économie des territoires par excellence et de la communauté. C'est aussi un outil d'apprentissage de la citoyenneté et de la coopération, mais pas que. C'est une chaîne de valeur. Donc, l'ESS, je vais parler de la Tunisie maintenant. Et ouais. C'est applicable pour toutes.
On va en parler, bien sûr. Oui. Vous allez nous raconter comment vous appliquez ce concept d'économie sociale et solidaire. Mais peut-être la suite du tour de table, Aminata Samdiop. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à cette définition ? Pour ceux qui ne voient pas bien, parce que je dirais qu'en Afrique subsaharienne, beaucoup de gens font de l'économie sociale et solidaire sans le savoir.
Tout à fait. Et je dirais même qu'au Sénégal, en Afrique, nous avons l'économie sociale et solidaire dans notre ADN. J'ajouterai le fait que l'économie sociale, c'est l'impact social, c'est la solidarité, c'est la générosité, c'est la démocratie et c'est le partage.
Et pour vous, Monique Ayin-Kamnia, chez vous aussi, on fait de l'économie sociale et solidaire du village jusqu'à la grosse ville ?
Bien sûr, bien sûr. L'économie sociale et solidaire au Cameroun se pratique au quotidien. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'ils font de l'économie sociale et solidaire. Parce que c'est l'homme qui est au centre de toute activité et vous comprenez que...
Ah, vous voulez dire que c'est plutôt les femmes qui font de l'économie sociale et solidaire ?
Surtout les femmes, mais bien sûr les hommes aussi.
Bon, on a un invité homme, Justin Bekounim. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire par rapport à votre activité ? Après, on entrera bien sûr dans les détails de votre projet.
Oui, pour recentrer l'économie sociale et solidaire par rapport aux déchets, je dirais que... On a trouvé une solution économique pour régler un problème social et écologique. Et c'est ça qui fait de notre activité, qui s'inscrit donc dans l'économie sociale et solidaire, en réglant le problème lié à la gestion des déchets et à la protection de l'environnement, tout en créant des emplois et de nouvelles activités génératrices de revenus liées à la collecte des déchets.
Alors, on va passer en revue d'ailleurs de très nombreuses solutions pour des problèmes du quotidien des populations dans vos différentes communes et à l'échelle de votre pays. Imène Ouardani, je le disais en introduction de l'émission, vous exprimez en tant qu'experte de l'économie sociale et solidaire et plus en tant qu'élu local, parce que le président Saïed a dissous les conseils municipaux du pays en avril dernier, ce qui veut dire que les mandats des 350 maires et conseillers municipaux ont expiré il y a quelques semaines. Est-ce que cela a des répercussions sur les projets d'économie sociale et solidaire, des projets qui sont en cours ou à venir, notamment dans une ville comme Sousse?
Oui. Moi, je le disais toujours, les conseils municipaux, que ce soit le maire ou bien les élus, en fait, nous sommes des passagers. C'est à l'administration d'assurer la continuité. Donc, et c'est le cas dans la ville de Sousse. Nous avons laissé des projets en cours, des projets en phase de conception, en lien bien entendu avec l'économie sociale et solidaire. Et ils prennent la route et tout fonctionne correctement. C'est grâce à l'administration qui croit vraiment en ces projets, qui assure la continuité et bien entendu la pérennité de ces projets.
Dans quel contexte l'économie sociale et solidaire s'est développée dans votre pays, la Tunisie, ces dernières années, on peut dire depuis la Révolution?
Bon, en fait, l'économie sociale et solidaire existe depuis plus longtemps en Tunisie, depuis les années 60, mais c'était un modèle peu réussi. Mais après la Révolution, donc, nous avons commencé à en parler de l'économie sociale et solidaire, le modèle répandu en Afrique et ailleurs. Donc, c'était un modèle important qui est capable d'apporter des réponses aux besoins économiques, sociaux et d'ordre environnemental des communautés. Donc, que ce soit la ville de Sousse, auquel j'étais membre, aussi au niveau du gouvernorat de Sousse, nous avons et nous sommes en train de mener plusieurs projets en lien avec l'économie sociale et solidaire, que ce soit au niveau du gouvernorat en lien avec la femme rurale, c'est par rapport à l'autonomisation de la femme, en intégrant, en impliquant l'approche ESS. Aussi, au niveau de la mairie de Sousse, c'est plutôt un impact social en lien avec la mairie.
Alors, donnez-nous des exemples concrets. Parce qu'on est dans une ville qui vit de quoi, finalement? C'est une ville portuaire, c'est la pêche, la pêche.
Effectivement. Donc, Sousse, c'est une ville du centre-est de la Tunisie. C'est une ville touristique par excellence, il y a un port de commerce, il y a un port de pêche, il y a le tourisme. Nous avons plusieurs modèles d'économie sociale et solidaire à développer, que ce soit au niveau des métiers de la mer, que ce soit par rapport au tourisme alternatif, même aussi dans les zones rurales du gouvernorat de Sousse.
Quels sont les freins que vous avez pour élaborer les projets avec tout le monde autour de la table et comment du coup l'économie sociale et solidaire peut débloquer des choses?
En fait, quand nous avons commencé à nous intéresser ou bien à mettre en place des projets ESS, nous nous sommes confrontés à plusieurs défis, à savoir les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont éparpillés, chacun travaille de son côté, mais en fait l'économie sociale et solidaire, c'est l'intelligence collective.
Donc, pensez à quel projet là?
Tout d'abord, c'est comment ancrer l'économie sociale et solidaire, comment sensibiliser les administrations publiques locales sur l'économie sociale et solidaire. Donc, le travail a commencé par l'identification de ces acteurs. Par la suite, nous, dans un projet intitulé Restart, c'est pour appuyer les jeunes entrepreneurs à créer des entreprises ESS et comment les intégrer dans des projets à impact social, à savoir, comme vous venez de le dire, la gestion des espaces publics.
Donc, le projet. C'était quoi le problème des espaces publics?
En fait, comme toutes les municipalités en Tunisie, nous disposons des moyens pour aménager ces espaces publics, que ce soit les espaces verts ou bien les terrains de quartier. Mais par la suite, le problème,
il n'y a pas d'argent pour entretenir.
Ni l'argent, ni les ressources humaines nécessaires pour entretenir ces espaces publics. aussi une autre chose plus importante que ces raisons-là, c'est le manque de sentiment d'appartenance de nos jeunes d'aujourd'hui. Ce qui fait que ces espaces, parfois...
Il y a des déchets.
Effectivement, des déchets, des émeutes par rapport à ça, etc. Donc, grâce à l'économie sociale et solidaire, là, on essaye d'ancrer ces valeurs.
C'est-à-dire d'associer, finalement, les citoyens, les associations de jeunes, notamment, pour qu'ils soient partie prenante du projet, du maintien de l'espace public. C'est ça, mais concrètement, ça peut être quoi ?
Là, actuellement, on est en train d'aménager un espace vert, là où les citoyens de ce quartier ont participé avec leurs idées par rapport à tout d'abord à la conception de cet espace vert.
Ils sont donc consultés.
Effectivement. Et aussi par rapport donc, de la gestion de cet espace. C'est pour cette raison que nous avons évoqué au début que l'économie sociale et solidaire, donc, c'est la coopération, c'est la solidarité. Donc, c'est important d'intégrer, d'impliquer tous les acteurs.
On va bien sûr y revenir, on parlera de la pêche. Aminata Diop Samb, à qui s'adressent à Dakar les fonds municipaux que vous gérez pour les 19 communes de la ville de Dakar, pour les projets de l'économie sociale et solidaire ?
Les fonds municipaux s'adressent d'abord aux femmes et aux jeunes. Ce sont les cibles du FODEM. Je rappelle que le FODEM, c'est le Fonds de développement et de solidarité municipale qui finance, formalise et encadre les groupements de femmes et de jeunes. Et je voudrais profiter de cette tribune pour rappeler en fait... Quand on a des autorités politiques, publiques, qui s'engagent dans la même dynamique de promouvoir l'économie sociale et solidaire, c'est un acquis. C'est un acquis de taille dans la mesure où, vous avez entendu le chef de l'État, il place l'humain au cœur et au centre de ses préoccupations. Le maire de Dakar également place l'humain au cœur et au centre de ses préoccupations. Et c'est cela qui renforce justement la promotion de l'économie sociale et solidaire au niveau de la ville de Dakar.
Reste à savoir comment ensuite obtenir des résultats concrets. Hein. Vous avez un budget de fonctionnement, est-ce qu'il est suffisant ?
Les contraintes financières sont là, parce que la demande elle est très forte. Pour cette année, nous avons eu plus de 500 demandes provenant de groupements de femmes. Et chaque groupement de femmes a plusieurs centaines de membres. Donc imaginez un peu la forte demande. C'est ce qui a fait que nous avons pu renforcer drastiquement les moyens financiers, les moyens logistiques et les moyens humains du Fonds de développement.
Qu'est-ce que vous financez, par exemple, à l'heure actuelle ?
Nous finançons les projets, tous les secteurs d'activité. Donc, cela va du commerce, le maraîchage, le mariage, tout ce qui est lié aux activités de commerce. Généralement, les femmes, elles s'investissent beaucoup dans le commerce, à 90%. Avec une forte valeur ajoutée. Donc, tous les secteurs d'activité sont
pris en compte. Donc, pour alimenter les réseaux de distribution du petit commerce à Dakar, c'est ça ?
Oui, puisque pour le FODEM, la femme qui tient son petit commerce, c'est une femme entrepreneur. Donc, nous les appuyons dans la formation, dans la formalisation et dans le financement de leurs activités.
Vous privilégiez les circuits courts, c'est ça, quand vous pensez à du maraîchage ?
Oui, tout à fait. Les circuits courts, mais également tout ce qui est groupement de femmes. Je rappelle que quand elles viennent chez nous, elles ne sont pas structurées. Elles ne sont pas formalisées. La première chose sur laquelle nous insistons, c'est de les mettre en synergie, de les formaliser et de les appuyer dans le financement de leurs activités génératrices de revenus.
Et de faire de l'éducation financière ?
Tout à fait. Et j'en profite pour rappeler que Dakar a mis en place un important programme d'autonomisation économique qui repose sur l'éducation financière, la formation, qui repose également sur la formation en entrepreneuriat, mais également sur la formation en économie sociale et solidaire. Vous l'avez dit dans vos propos. Les gens ne connaissent pas l'économie sociale et solidaire. Et pourtant, nous la pratiquons au quotidien.
Quand les gens obtiennent une petite somme modeste pour lancer leur activité via le FODEM, est-ce qu'ils doivent rembourser ou pas ?
Mais tout à fait.
Ils ne
donnent pas de subvention. C'est des prêts qui sont remboursés à un taux de 2%.
Donc évidemment, beaucoup moins cher comme taux d'usure que le microcrédit.
Beaucoup moins cher. J'ai été banquière et on sait ce qui se passe au niveau des banques. Compte tenu des contraintes liées aux garanties, ces acteurs de l'économie sociale et solidaire ne peuvent pas bénéficier effectivement des prêts bancaires. Raison pour laquelle nous avons mis en place ce fonds pour effectivement les appuyer dans le financement de leur activité.
On continue notre tour de table. Monique Ailly, vous êtes la maire de Dzeng, une petite commune rurale de 1200 habitants. Hein, mais vous êtes surtout là parce que vous êtes la responsable de ce fameux réseau des maires du Cameroun pour l'économie sociale et solidaire. À quoi sert ce réseau au Cameroun, concrètement ?
Alors, je crois qu'il y a eu un lapsus. J'ai quand même une population de 3200 habitants, pas 1200.
Pardon, voilà. Un peu plus du double. Mais ça reste une commune rurale.
Oui, ça reste une commune rurale. En vérité, tout est parti de certaines réflexions. L'idée de création du réseau des maires camerounais pour l'économie sociale et solidaire est partie d'une dynamique naissante sur nos territoires qui sont marqués par la limitation des ressources publiques confiées aux villes et aux communes. Et à partir de ça, donc, 5 maires se sont réunis et ont dit, bon, il faut faire quelque chose, il faut trouver la possibilité de financer nos communes. Dans les activités, nous avons par exemple la réalisation des diagnostics territoriaux de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, au niveau de ma commune, on a envoyé plusieurs équipes pour voir exactement ce qu'on peut produire, qu'est-ce qu'il peut donner de l'argent aux populations. Là, c'est le diagnostic territorial de la commune de Dieng. Alors, on s'est rendu compte que c'est une commune rurale, où on fait beaucoup d'agriculture, peu d'élevage, mais beaucoup de pêche. Et à partir de là, donc, on cherche à structurer des filières. Par exemple, ceux qui produisent de la banane plantain sont organisés dans une filière, ceux qui font du maïs dans une filière, ceux qui font de la pêche dans une filière, ainsi de suite, ainsi de suite. On rassemble donc toutes les filières et on les structure en coopérative. Donc voilà l'exemple des diagnostics territoriaux. Il y a eu la sensibilisation des acteurs et populations à l'économie sociale et solidaire. Comme on disait tout à l'heure, les gens savent ce que c'est que l'économie solidaire, pratique, mais ne se reconnaissent pas là-dedans.
Et pourquoi ?
Je crois que c'est quelque chose qui est un peu nouveau. Et les gens sont habitués à travailler seuls. Mais quand on leur demande de travailler en collectivité...
De partager leurs expériences.
De partager les expériences, de travailler en groupe. Quand ils font des plantations, c'est isolé. Mais là, au niveau de l'économie sociale et solidaire, chacun fait sa plantation.
Alors que normalement, tout le monde pourrait aller cultiver chez le voisin pour l'aider, c'est ça ?
Oui.
Ça l'idée ?
Oui, c'est l'idée. Mais d'une manière générale, ils ne veulent pas mettre ensemble la production pour la commercialiser parce qu'ils ont peur certainement qu'il y ait des fuites d'argent. Alors que l'idée, c'est ça.
Parce qu'on est plus fort ensemble, mais évidemment, ça constitue toujours un risque, Imane Ouardani.
Oui, peut-être je veux intervenir dans ce sens, puisque là, on a remarqué, je pense que c'est un problème en commun dans toute l'Afrique. C'est pourquoi j'ai dit c'est un état d'esprit. Donc, on a remarqué que les gens se sont habitués à travailler tout seul, de ne pas se partager ses richesses. Donc, c'est une sorte, on a remarqué qu'il y a une sorte d'individualisme, d'égoïsme. Et c'est pour cette raison dont en Tunisie, puisque c'est un concept nouveau aussi, surtout chez les communes, de travailler sur cet état d'esprit, d'enraciner cette culture pour par la suite arriver à cette finalité, c'est de développer l'économie sociale et solidaire dans nos territoires.
C'est pour cela que parmi les principales activités également, le RMCES appuie au soutien du développement des structures et la formation et le renforcement des capacités des élus locaux, parce que c'est les maires qui doivent encadrer ces opérations-là.
Et donner l'impulsion. Et donner l'impulsion. Envie aux citoyens de travailler ensemble.
Tout à fait.
Mais on comprend bien quand même dans ce que vous dites que ce n'est pas gagné. Hein. Justin Berkounim, vous êtes entrepreneur. Alors, vous êtes un entrepreneur tout seul ou vous jouez collectif à Lomé au Togo sur les déchets ?
Ce que nous faisons, nous nous inscrivons dans la logique de l'économie sociale et solidaire et nous permettons à beaucoup de personnes de pouvoir vivre des déchets. Vega Recycling, c'est 30 emplois, mais surtout plus de 3000 personnes qui participent à la collecte des déchets que nous achetons au kilo. En fait, il y a des groupes de collecteurs de déchets indépendants qui collectent les déchets que nous achetons au kilo et c'est ce que nous appelons la nouvelle activité génératrice de revenus.
Comment est géré le marché des déchets en fait, à Lomé ?
À Lomé, la ville de Lomé, c'est 50% du budget qui va dans la gestion des déchets. Et c'est quand même
c'est une énorme déperdition finalement.
Oui, bien sûr. Donc, comme toutes les villes de l'Afrique subsaharienne, la ville de Lomé a vraiment un problème de gestion des déchets. Et beaucoup d'acteurs se sont engagés dans la gestion des déchets à Lomé, les ONG, les associations. Et il y a une dynamique locale importante autour. Et cependant, en ce qui concerne les déchets plastiques, il y a une partie des déchets plastiques, je parle des déchets plastiques rigides, qui sont pris en charge. En ce qui concerne les déchets plastiques souples, qui sont la majorité des déchets plastiques,
les sachets,
et qui constituent un problème écologique énorme en termes de pollution.
Et ce sont ces sachets que vous recyclez.
Et c'est ça, c'est ces sachets que Vega Recycling transforme en granulés, une matière première alternative pour les plasturgistes.
On peut recycler indéfiniment ce plastique ou pas, ces sachets ?
Ces sachets sont recyclés indéfiniment, mais lorsque on atteint un taux de recyclage donné, il faut faire appel à la matière première. Mais ce qui est intéressant dans ces sachets, c'est qu'il y a des solutions pour les transformer, pour que ces sachets servent d'une matière première qui ont la même qualité que la matière première vierge et qui vont permettre donc d'économiser le pétrole, qui est la ressource de base pour la production des granulés du plastique issus de la matière vierge, qui permettent donc de produire des objets en plastique. Et donc, on économise en fait le pétrole, qui est une ressource non renouvelable.
En Europe, les études ont clairement montré que les filières de recyclage avaient paradoxalement fait exploser la consommation de plastique vierge. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon de rassurer les citoyens, de dire « vous pouvez consommer du plastique, de toute façon, il sera recyclé, il ne partira pas dans la nature ». Ce n'est pas une fuite en avant?
Bon, en fait, nous avons le devoir le plus absolu de gérer les déchets et de façon durable. Et le recyclage est un moyen par excellence aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts en fait à abandonner le plastique parce que le plastique fait partie du quotidien. Dans chaque ménage à Lomé, comme dans toute l'Afrique subsaharienne, il y a du plastique. Et donc, il est impératif de continuer à développer les techniques de recyclage tout en s'inscrivant dans l'économie circulaire et dans l'économie sociale solidaire et en faisant des sensibilisations pour limiter l'utilisation des objets en plastique, surtout les objets en plastique à usage unique.
Vous avez travaillé avec les collecteurs, hein, puisque ce sont eux qui vous fournissent la matière que vous allez recycler, pour qu'ils se fédèrent en association, pour qu'ils valorisent leur métier. Mais paradoxalement, ça veut dire que plus ils se fédèrent, plus ils sont en groupe, plus vous devez leur acheter de la matière plus chère ou pas. C'est pas bon pour votre business?
Eh bien, la dynamique dans laquelle on s'inscrit, c'est pas pour faire beaucoup d'argent, mais c'est pour créer une logique économique qui permet de soutenir les activités pour la rendre pérenne. Donc notre préoccupation, ce n'est pas vraiment la rentabilité, c'est l'homme au centre. Permettre à l'homme de pouvoir vivre décemment et de la collecte des déchets, parce que nous attachons du prix au travail des pré-collecteurs, parce que ces collecteurs de déchets participent beaucoup, c'est un maillon dans la chaîne qui est essentiel, et c'est la qualité de leur travail qui fait que nous existons. Et en même temps, nous avons voulu qu'on fédère tous ces collecteurs-là en une famille pour permettre de valoriser leur activité et permettre à l'homme de vivre décemment des activités de collecte. C'est plus de 80% de femmes qui sont impliqués dans la collecte, dans les 3000 personnes qui aujourd'hui vivent des déchets. Et donc, c'est quand même intéressant parce que les femmes, lorsqu'elles ont des revenus, elles impactent toutes les familles. Et donc, c'est vraiment...
Ça permet aux enfants d'aller plus facilement à l'école, notamment.
Tout à fait.
Et ça a des retombées aussi sur le budget de la municipalité?
Eh bien oui, parce que à Lomé, il y a des collecteurs qui collectent des déchets des ménages avec les engins et qui ont l'autorisation de la mairie. Et ces déchets-là vont dans les dépotoirs intermédiaires et ces déchets quittent les dépotoirs intermédiaires vers le centre d'enfouissement technique. Alors tout ce circuit fait que les communes, quand je parlais de 50% du budget, eh bien c'est vraiment très honoré pour la mairie d'assurer la collecte des déchets parce que c'est à la charge de la mairie. Lorsque nous réduisons la quantité
c'est
des
ça.
Déchets...
L'idée c'est de désengorger un peu ces centres d'enfouissement parce qu'au bout de la chaîne, ce sont les centres d'enfouissement qui sont très vite saturés.
Évidemment, les centres d'enfouissement non seulement sont très vite saturés, mais aussi c'est budgétivore. Et les mairies dépensent beaucoup d'argent pour pouvoir assurer cette collecte. Et nous, notre devoir et notre préoccupation, c'est de réduire considérablement ces déchets pour en faire de l'argent, pour créer des solutions innovantes, pour créer des emplois et pour créer de nouvelles activités liées aux déchets. Et en même temps, permettre à la mairie d'économiser un peu plus son budget et faire autre chose.
Vous restez avec nous. Nous allons voir dans quelques instants quelles sont les conditions nécessaires pour développer cette économie sociale et solidaire. Comment peut-être faire avancer aussi les législations, que faire des bénéfices lorsque ces petites entreprises parviennent à gagner de l'argent. C'est déjà pas mal. Que peut apporter aussi l'Afrique à ce forum mondial? Ça sera juste après Fada Freddy, un voisin sénégalais qui est aussi un des fondateurs de Daradji. Not ashamed to walk down another way. Turn me away, I don't care anyway. My golden cage, yeah, I've left it all behind. But ever freedom calls, it's too late to rewind. Fame, would I love to take you with me? Little bird, don't wanna set free. You seem to be comfortable with the shackles you drag all the time. You will know my destination when you free up your mind from the golden cages.
You're living in the golden cages, golden cages. You're living in the golden cages, golden cages. You're living in the golden cages, golden cages. You're living in the golden cages. I'm a rider of free tides, and I'm ready for the world. My roof is the sky, and my country is the earth. You may say I lost my head, I may say you're already dead. You sold your soul for this little comfort. Rain, would I love to take you with me? Little bird, don't wanna set free. You seem to be comfortable with the shackles you drive all the time. You will know my destination when you free up your mind from the golden cages. You're living in the golden cages, golden cages. You're living in the golden cages, golden cages. You're living in the golden cages, golden cages. You're living in the golden cages. You got the right to vote, still you're treated like a servant. There is no justice with a knee on your throat. Hiding behind and hoping someone remembers you. When you're just a number, just another barcode from the golden cages. You're living in the golden cages.
8 milliards de voisins, notre émission est enregistrée à Dakar au Forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui se déroule cette semaine pour la première fois sur le continent africain. Et notre sujet, comment améliorer les villes grâce à l'économie sociale et solidaire? On en discute avec nos invités. Imen Wardani qui vient de Tunisie, qui est experte en économie sociale et solidaire et qui travaille plus spécifiquement sur la ville de Sousse. Également avec nous Aminata Samdiop, directrice générale du Fonds de développement et de solidarité municipale de Dakar, le FODEM. Monique Ayi Kandmia est maire de Dzeng au Cameroun et surtout elle préside le réseau des maires du Cameroun pour l'économie sociale et solidaire. Et Justin Bekounim, vous nous expliquiez il y a quelques instants quelle est la finalité de votre entreprise sociale et solidaire Vega Recycling, qui recycle des sachets plastiques pour en faire des granulés et ça part direction la plasturgie. Ensuite, je voudrais qu'on revienne au sujet des villes. Parce que les villes aujourd'hui sur le continent africain connaissent de nombreuses difficultés, souvent un développement assez anarchique. Comment vous voyez la possibilité pour l'économie sociale et solidaire d'améliorer réellement la vie en ville aujourd'hui pour les citoyennes et pour les citoyens? Qui veut répondre à cette question? Aminata Samdiop.
Merci. La première chose sur laquelle il faudra insister, c'est de mettre en place un cadre de concertation. Pourquoi? Parce qu'il est important que les acteurs soient associés au processus. La deuxième chose sur laquelle j'insiste, c'est de mettre en place un cadre réglementaire. Parce que si les acteurs ne sont pas encadrés, il est évident qu'ils ne seront pas financés ou promus. Donc au Sénégal, la loi d'orientation est là, on l'a votée en 2021.
Est-ce qu'il y a eu le décret d'application?
C'est en cours.
Ah, donc pour l'instant, il ne sert à rien cette
bon,
loi alors.
Non, le décret d'application est là. Allez sur la plateforme du ministère de l'économie sociale et solidaire, le décret est là-bas, disponible.
Donc il est mais passé le décret?
Oui.
Vous me dites c'est en cours?
Bon, ça veut dire qu'il y a un travail à la base qu'il faut faire par rapport à la formation des acteurs. Les acteurs ne sont pas encore imprégnés de la teneur de cette loi d'orientation. Il faudra que le ministère s'implique déjà dans la formation.
Et quel est le but de cette loi finalement?
Le but, c'est de promouvoir l'économie sociale et solidaire à l'échelle nationale. Parlons un peu du côté de la ville de Dakar.
Est-ce que ça prévoit par exemple des facilités fiscales ou pas? Et très concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter ceux qui se
déclarent comme entreprise solidaire? Oui, il a été prévu dans cette loi d'orientation, notamment au niveau de l'article 27 pour les collectivités locales que je maîtrise, de mettre en place des structures qui promouvent le développement de l'économie sociale et solidaire. Il y a des fonds de dotation qui sont prévus pour les accompagner dans le domaine financier. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme qui agrège toutes les initiatives de l'économie sociale et solidaire. La première chose sur laquelle j'insiste, c'est le réseau des acteurs et des collectivités locales pour l'économie sociale et solidaire. C'est un réseau qui a été mis en place par la ville de Dakar pour un peu agréger les initiatives des collectivités locales dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Si cette synergie se développe, ça veut dire que nous parviendrons effectivement à appuyer les véritables acteurs de l'économie sociale et solidaire. Parlant chiffres, la ville de Dakar a appuyé plus de 23 000 bénéficiaires.
Bénéficiaires
formés.
De quoi ?
Bénéficiaires, ce sont les acteurs. Ce sont les femmes, ce sont les jeunes, ce sont les acteurs culturels qui ont
ils
été...
vont bénéficier d'éducation financière, notamment pour tenir leur commerce. Et du financement.
L'argent, c'est le nerf de la guerre. Mmh. On les forme, mais s'ils ne sont pas appuyés financièrement, ils restent intenus.
Imène Ouardani, sur le cadre législatif que mentionnait Aminata Samdiop, est-ce que c'est quelque chose d'important que les entreprises d'économie sociale et solidaire puissent bénéficier d'un label, puissent être reconnues d'utilité publique, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas des entreprises comme les autres?
Oui, effectivement. Donc, le cadre juridique, le cadre légal est très important. D'ailleurs, la Tunisie était première dans le monde arabe en promulguant en juin 2020, la loi sur l'économie sociale et solidaire. Ceci n'empêche que les projets menés par des associations ont anticipé le cadre juridique. Donc là, je voulais juste passer comme message qu'il ne faut pas s'arrêter ou bien se bloquer juste pour dire qu'il n'y a pas de cadre législatif. Donc l'expérience a montré que l'économie sociale et solidaire a existé bien avant le cadre juridique par les lois sur les coopératives, les mutuelles, etc. Aussi, dans les collectivités locales votées en 2018, je ne sais pas s'il est encore valable ou non suite à ces dernières décisions, mais quand même, il y a tout un chapitre qui parle de l'économie sociale et solidaire, qui aussi encourage les municipalités à privilégier les entreprises ESS dans les marchés publics. Simplement, on partage peut-être le même souci, c'est qu'il y a la loi, il y a le code de collectivité locale, mais il manque toujours les textes d'application. Et c'est surtout par rapport à ce que vous venez de dire, la structure des entreprises ESS. Deuxième chose aussi, c'est le deuxième problème que la ville de Sousse confronte dans son projet sur les espaces publics, c'est qu'il n'y a pas des entreprises ESS, puisqu'il n'y a pas de structure légale ou bien il n'y a pas de texte d'application qui puisse encourager les jeunes à monter des entreprises ESS.
Oui, des entreprises sociales et solidaires. Du coup, s'il n'y a pas vraiment de statut, c'est difficile de savoir où est la frontière entre une entreprise lambda, hein, finalement, Monique Ayi-Nkamnia, qui dégage beaucoup de bénéfices, qui est d'abord là pour enrichir ses fondateurs, et puis une entreprise qui a vraiment une vocation sociale pour rayonner, pour ruisseler aussi avec ses bénéfices sur la communauté.
Bon, déjà, je crois qu'il faut mettre sur pied quand même une plateforme de négociation, d'échange entre le partenariat public et privé par rapport au développement des villes en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire. Mais... comme disait
Imène Ouardani.
Voilà, nous avons les mêmes problèmes, c'est-à-dire que le cadre législatif est là, l'économie sociale et solidaire est reconnue, mais nous avons des textes d'application qui n'existent pas.
Donc et concrètement, ça veut dire que ces entreprises sociales et solidaires, elles ne bénéficient pas des avantages qu'elles pourraient avoir ?
Non, une entreprise d'économie sociale et solidaire ne peut pas chercher à gagner un marché public. C'est-à-dire que quand on lance les marchés, les entreprises d'économie sociale et solidaire ne sont pas reconnues. Ce qui pose problème. Comment est-ce qu'on peut fonctionner dans ces conditions ?
Alors qu'elles devraient être éligibles, voire même prioritaires.
Elles devraient être éligibles et même prioritaires, parce que là, il s'agit quand même de la communauté, de la collectivité, ainsi de suite. Et puis, les bénéfices sont à un niveau très moindre par rapport aux entreprises commerciales que nous connaissons, classiques.
Comment ça se passe au Togo, Justin Berkounim ? Est-ce que vous avez vous-même du mal à être reconnu en tant qu'entreprise d'utilité publique ?
Oui, ben, le Togo est en train d'avancer, mais j'avoue que le Sénégal est en avance sur le Togo, parce qu'au Togo, il y a des ébauches, mais il n'y a pas encore d'abord une loi qui est votée. Mais je pense qu'il y a les autorités du pays qui travaillent en ce sens. Et cependant, je pense d'abord et avant tout que l'entrepreneur social, c'est un état d'esprit, c'est un fonctionnement. Ce n'est pas d'abord une nature juridique, en fait. Et c'est vrai qu'il est nécessaire d'aller vers là, mais je me dis que nous pouvons, tout en travaillant sur ça, faire en sorte que les entreprises existantes puissent s'inscrire dans cette logique de lucrativité limitée, de gouvernance démocratique et de toutes les valeurs donc, qui sont celles de l'entrepreneuriat social. Ne pas tomber dans donc, le piège d'une communication stérile qui n'a pas d'impact, parce qu'il ne faut pas que les avantages donc, que peuvent avoir les entreprises sociales en termes, par exemple, de fiscalité et autres, font en sorte que les gens utilisent ce, voilà.
Du social washing.
Donc voilà, comme du green washing, du social washing. Donc, et je pense qu'il faut prendre les choses de cette manière pour dire que ben, la jeunesse africaine doit s'approprier en fait les valeurs de l'économie sociale et solidaire parce que nous sommes un continent jeune et nous avons le devoir d'affronter l'immense transition écologique qui s'impose et l'entrepreneuriat social est pour moi la voie à suivre. Et pour cela, il faut faire un travail de communication, et il faut faire un travail d'éducation avec une approche pédagogique très bien réfléchie et il faut encourager les jeunes à s'inscrire dans ce sens et en même temps suivre avec des législations et des cadres pour vraiment réglementer. Parce que moi, au Togo, je suis enregistré comme une entreprise ordinaire. Recycling, c'est une SARL.
SARL ?
Oui, une SARL. Et je pense qu'avec le temps, il faut qu'on avance pour qu'on soit, on se distingue aussi des autres entreprises ordinaires. Ouais. Parce que ce que nous faisons, c'est vraiment important pour régler en même temps les défis que nous avons en commun.
En évitant que tout le monde ne se précipite, si vous pouviez bénéficier de cette facilité fiscale, que tout le monde arrive sur cette possibilité du social washing, Imen Wardani.
Oui, tout à fait. Pour moi, comme il vient de le dire, c'est très important, donc peut-être le processus pour ancrer cet état d'esprit est beaucoup plus complexe que mettre des réglementations, de structurer ce domaine, puisque c'est très important donc, de monter, d'encourager ces jeunes à avoir cet esprit de solidarité,
jouer collectif,
jouer collectivement, etc., pour que ces projets aient un impact social et économique sur nos territoires.
Est-ce qu'il y a un projet où vous trouvez que c'est particulièrement une réussite, où vous êtes parvenu à faire changer les mentalités ?
Oui, en fait, c'est lors de mon mandat à la municipalité de Sousse, j'ai géré un projet sur les politiques jeunesse dans les quartiers défavorisés. Et dans ce projet-là, donc un des axes, c'est l'aménagement d'un terrain de quartier. Et je voulais impérativement donc, intégrer l'approche économie sociale et solidaire dans ce projet-là. Donc, tout d'abord, j'ai commencé avec une approche participative. Donc, je me suis réunie avec le staff de la municipalité, avec aussi les acteurs de la société civile et même l'université. Donc, c'est important de réunir toutes les parties prenantes.
Savoir ce qu'ils voulaient faire de ce terrain.
Effectivement. Et c'était une consultation, bien entendu, avec les experts en la matière, les experts en économie sociale et solidaire pour les encadrer après tout, et donc d'imaginer cet espace. Par la suite, on a aussi une deuxième table par rapport au développement des activités autour des espaces, parce que mis à
alors
part...
Alors là, que disent les gens à ce moment-là?
Effectivement. Donc,
ils veulent quoi? Ils veulent un terrain de foot? Ils veulent des jardins?
Effectivement. Donc c'est un terrain de quartier, donc c'est principalement une partie un terrain de foot et un terrain omnisport, effectivement, parce qu'on a insisté à ce que l'approche genre soit intégrée. Donc,
pas que pour les garçons, c'est ça.
Effectivement. Donc, on a voulu à ce que ce terrain de quartier soit inclusif et pour les garçons et pour les filles. Donc,
ça, c'était facile à faire accepter?
Oui.
Dans les réunions publiques?
Sincèrement, moi, j'étais agréablement surprise, mais le travail avec les jeunes est beaucoup plus facile avec les adultes. Donc, il y avait une autre consultation, effectivement, sur la gestion de cet espace à travers ces jeunes. Donc, il y avait plusieurs propositions, soit de désigner un jeune responsable sur ce terrain de quartier, pourquoi pas implanter un petit kiosque qui, lui, peut vendre ou louer des ballons, des t-shirts, vendre des boissons,
c'est ça,
etc.
C'est ça, pour que ça rapporte un peu d'argent.
Et lui, il prend en charge l'entretien de ce terrain. Donc, il y avait vraiment d'idées pertinentes à concrétiser. Malheureusement, donc, j'ai pas pu continuer le projet. J'espère que la municipalité et le cadre administratif dans une prochaine phase de continuer ce projet. Mais c'est un projet qui a un impact social, réel, mais aussi économique.
Ouais. Quand vous dites malheureusement, j'ai pas pu continuer le projet, je le rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, hein, votre président tunisien a dissous tous les conseils municipaux. Donc forcément, ça a mis un coup d'arrêt à ces projets, du moins on l'espère momentanément. Du côté de la pêche, peut-être, un dernier mot.
Oui. En fait, par rapport à de la pêche, donc, comme je viens de le dire, Sceaux, c'est une ville portuaire, c'est une ville côtière. Donc, simplement, comme toutes les villes côtières en Tunisie, le secteur de la pêche n'est pas vraiment bien structuré et il confronte à plusieurs problèmes. Et là, nous sommes convaincus que l'économie sociale et solidaire, c'est le levier de développement de cette activité. Simplement, il y a à Sceaux, concrètement, il n'y a pas d'initiative dans ce sens, mais... Quand j'étais vice-maire, donc, j'étais en charge de l'organisation du premier forum méditerranéen de l'économie bleue solidaire et plusieurs ateliers ont été organisés. Parmi ces ateliers, on a évoqué le secteur de la pêche et là, il y avait plusieurs recommandations de la part, et j'insiste toujours, de toutes les parties prenantes que nous avons réussi à les réunir autour de la même table pour, bien entendu, donner des recommandations, des enseignements pour développer le secteur de la pêche en impliquant, bien entendu, l'économie sociale et solidaire.
On arrive bientôt au terme de cette émission. J'aimerais qu'on fasse un tour de table. Aminata Samdiop, Dakar est la première ville africaine à accueillir le forum de l'économie sociale et solidaire. Selon le maire Barthélémy Dias, Dakar 2023 a la responsabilité de porter la voix du continent africain, continent d'avenir. Si on regarde un peu autour de nous les enjeux de réchauffement climatique où l'Occident doit revoir ses habitudes d'abondance, que peut apporter l'Afrique comme contribution, je dirais, frugale dans ses pratiques d'économie sociale et solidaire ?
L'Afrique, c'est la voie des sans-voix. L'Afrique regroupe des centaines de milliers de jeunes. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le programme Pré-Forum Jeunes, où il s'agira pour les jeunes de porter les plaidoyers et de faire comprendre que ce modèle économique peut être un bon modèle économique pour les jeunes. L'Afrique sera la voix des femmes. Il s'agira pour les femmes, effectivement, de porter la voix de ces femmes qui sont au quotidien les véritables actrices de l'économie sociale et solidaire. L'Afrique sera également la voix de ces centaines de milliers de femmes. Parce que moi, je milite pour la cause des femmes. Il s'agira pour nous d'aller vers un forum d'action, d'aller vers des recommandations pratiques, de mettre en place une plateforme et de mettre en place des synergies.
Monique Ayi-Nkamnia, pour vous, que peut apporter l'Afrique dans ce débat sur l'économie sociale et solidaire ? Est-ce que l'Afrique a une contribution particulière à apporter ?
Ah oui, l'Afrique a une grande... C'est immense hein, ce que l'Afrique peut apporter à ce débat. Je crois qu'en Afrique, on a encore une âme. Les gens peuvent se mettre ensemble pour la production. Et le marché africain aujourd'hui est recherché un peu partout. Dernièrement, j'étais aux États-Unis. Nous sommes allés à l'inauguration d'un trade center dans le Maryland. Et je vous assure que c'était terrible parce que même les Américains ont besoin des produits africains. Alors, vous comprenez que si dans chaque pays, on essaie de mettre ensemble toutes ces coopératives de production et ainsi de suite, l'Afrique peut beaucoup apporter.
Reste à savoir si ça sera suffisant pour que le continent ne soit pas pillé de ses matières premières.
Non. Enfin, je ne sais pas s'il faut parler des matières premières, mais je pense que rien que dans le sens de l'agriculture, la production agricole, elle est reconnue en Afrique. Il y a beaucoup d'espace, les gens utilisent certainement encore le modèle traditionnel, mais chacun trouve quelque chose à manger et il y a un reste pour l'exportation. Donc l'Afrique a beaucoup apporté cette grande réalisation qui consiste à relever au plus haut niveau l'économie sociale et solidaire. Mais il faut que le modèle soit développé aussi bien dans chaque pays et qu'il y ait aussi à l'intérieur du continent africain, qu'on se mette ensemble pour essayer de penser, réfléchir et trouver le moyen d'aller à l'exportation.
Justin Bekounim, sur les villes, pour produire des villes plus vivables, qu'est-ce que le continent africain pourrait apporter comme vision sur l'économie sociale et solidaire ?
Je pense que les villes africaines partagent en commun un certain nombre de problèmes. Et je pense que la jeunesse africaine est de plus en plus créative et engagée. Et puisqu'on a beaucoup de problèmes et derrière chaque problème se cache une opportunité d'entreprise, les jeunes sont engagés en Afrique pour désormais créer des entreprises et régler des problèmes. Je pense qu'il est utile d'intégrer en fait dans notre système éducatif des valeurs de l'économie sociale et solidaire pour que cela oriente la jeunesse vers ces initiatives. Et donc, lorsque nous pensons créer des entreprises, nous devons penser s'inscrire dans cette logique de l'économie circulaire, de l'économie sociale et solidaire, en mettant l'homme au centre de nos préoccupations. Je pense que...
Et les femmes ?
Oui, bon, quand je parle de l'homme avec grand H.
Les personnes humaines, d'accord.
Bien sûr, y compris les femmes qui sont aussi la majorité de la population et qui se battent et qui font un travail louable. Vous savez, en Afrique, les femmes, elles contribuent beaucoup au développement et surtout dans l'économie sociale et solidaire.
Merci à vous tous. Et merci aussi à l'équipe de 8 milliards de voisins, Juliette Bro, Steven Elsley, l'équipe à Dakar, assistée de Moussa Thiam, Ibrahim Abba pour le bureau RFI Mandinkan Full Full Day. Merci à Divine Berthoud, Delphine de Dianous dans le bureau de Paris. Bien sûr, vos commentaires nous intéressent. Vous pouvez poster vos messages au 33 7 64 45 51 41. C'est le groupe WhatsApp. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine à l'écoute de RFI. Et bien évidemment, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur les plateformes de téléchargement. Dans quelques instants, ce sera le journal. On se quitte avec OG, I Got It. All these blessings falling in my lap like I'm a grandpa. All this money, I go swimming in it like a tempo. There's a place I did a fame with it, though. Rappers niggas had themselves to blame, now I'm apple. Yeah, you want what I like from this Niger from the Delta. Did you want more flavor in the game? Yeah, you welcome. My level done ginger ain't the same and it's seldom.
De voisins, c'est fini.